Kasai Oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous. 3600 victimes de violences sexuelles ont été recensées en RDC entre janvier 2010 et décembre 2013. Ces cas ont été recensés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et rendus publics en avril dernier à New York. Le document indique que si certains progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles, beaucoup reste à faire pour que les auteurs de ces violences rendent compte. Quelle lecture faites-vous de ce rapport? Que proposez-vous pour lutter efficacement contre l'impunité en cas de violences sexuelles? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Jean-Claude Nsiala. Berry Franklin Luchaka et Rose Nyanfoura sont à la réalisation et Pierrot et la Meiji je vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Nous avons en ligne Madame Marie-Josée Mujinga, présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Dans son rapport rendu public le 9 avril dernier à New York, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme indique que plusieurs progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les auteurs de ces violences sexuelles rendent compte. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre l'impunité des violences sexuelles en RDC? C'est la question autour de notre échange de ce jour. Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous avons en ligne Madame Marie-Josée Mujinga, qui est présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo. Madame Marie-Josée Mujinga, bonjour. Madame Marie-Josée, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous penchons ensemble sur la lutte efficace de l'impunité en cas de violence sexuelle. Selon le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, on estime qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans cette lutte, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, pour vous, en tant que présidente de l'Association des femmes magistrates, quand on voit ce rapport des Nations Unies, les femmes sont concernées à plus de 60% dans ces cas de violences sexuelles. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Quand on parle des progrès pour vous, les progrès dans la lutte sont dus à quoi dans notre pays?
Oui, le progrès, je peux dire qu'il y a eu déjà la loi de 2008 qui, depuis sa promulgation, nous avons vu que beaucoup de femmes ont commencé à dénoncer, ce qui n'était pas dans le cas. Et il y a eu plusieurs cas de répression, des cas qui ont été pour lesquels les cours et tribunaux ont été saisis, et ces cas ont été examinés et les auteurs ont été sanctionnés. Mmh. Je crois que c'est déjà un progrès, parce que à l'époque, les violences sexuelles, beaucoup de femmes ne dénonçaient pas. Mmh. En fait, la population n'était pas sensibilisée. De plus en plus, il y a une sensibilisation de cette loi-là. La population a été sensibilisée assez et nous voyons qu'il y a de plus en plus de cas qui sont déférés devant les cours et tribunaux.
Mmh. Mais dans le rapport, le Bureau conjoint estime qu'il y a aussi des petits soucis par rapport à ce qui concerne la protection des témoins, parce qu'il y a des gens qui ont toujours peur, ils disent qu'on peut dénoncer, et dès lors qu'il n'y a pas une loi spécifique pour la protection des témoins, les bourreaux risquent encore de venir menacer les victimes au niveau de la société. Mais au niveau de la loi, quels sont les mécanismes de protection des témoins, par exemple, qui sont prévus pour permettre et encourager encore davantage des victimes et d'autres témoins à pouvoir dénoncer?
Je crois que la loi prévoit que la procédure est à huis clos. Mm-hmm. C'est déjà ça, mm-hmm, par rapport à la victime elle-même, mm-hmm, et par rapport aux témoins. Parce que quand on parle de huis clos, ça veut dire que c'est une affaire qui n'est pas instruite en public, Par conséquent, dans le huis clos, il y a moyen de protéger aussi les témoins. Je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il faut une loi pour ça, mais j'estime personnellement, c'est aussi dans la mentalité qu'il faut sensibiliser. Parce que vous savez, quelqu'un qui vient témoigner, ce n'est pas un problème seulement lié au, à la RDC. Et partout au monde, les témoins ont toujours eu peur de pouvoir témoigner, la peur des représailles de leurs tortionnaires. Hein. Mm-hmm. C'est pas propre à la RDC, hein.
Et dans le rapport, on s'inquiète plus, hein, parce que quand on voit les pourcentages élevés des viols viennent de forces négatives, que ce soit par exemple les groupes armés étrangers sur le sol congolais, que ce soit les autres groupes armés congolais, y compris aussi des services de forces de l'ordre, par exemple comme les militaires, comme les policiers. Et alors là, quels sont les efforts qui doivent être fournis quand ces violences sont causées plus par des groupes armés? Là, ça devient encore très compliqué par rapport aux enquêtes et à l'autre, et comment les amener en justice.
Bon, vous savez, quand les violences sont commises par des troupes armées, comme vous dites là, ce sont des gens qui sont mobiles. Mmh. Il est difficile de pouvoir les localiser ou les identifier. Mais il faut quand même que les efforts soient fournis. Oui. Je crois que au stade actuel, il y a eu d'autres qui ont été poursuivis, identifiés par leurs victimes et qui sont en train d'être jugés. Nous pouvons parler du procès de Minova actuellement. Oui. Donc c'est aussi le cas qu'il faut prendre comme exemple. Mm-hmm. Il y a eu des viols, des violences. Mais les victimes ont eu le courage d'identifier leurs auteurs et actuellement ils sont en train d'être les causes sont en train d'être instruites et ils finiront par être sanctionnés. Mais ce que nous devons dire, c'est que ce n'est pas facile pour pouvoir poursuivre une troupe qui est en mouvement et pouvoir mettre la main là-dessus.
Voilà. Merci. On vous garde en ligne. Hein. On n'a pas aussi écouté les auditeurs. Vous êtes partout en RDC. Vous avez besoin de contribuer dans cette émission pour que nous puissions arriver à une lutte efficace contre les violences sexuelles, mais aussi contre l'impunité en cas de violences sexuelles. Appelez-nous au 081-890-6315. Votre contribution et votre préoccupation aussi sont les bienvenus dans cette émission. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche, et puis à Trient et à Kananga, au Kasaï occidental. On va vous accorder la parole. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aussi à l'invité et aussi à tous les amis congolais avec qui nous allons nous échanger.
Oui, vous avez suivi, il y a encore beaucoup d'efforts qu'il faut fournir dans la lutte contre les violences sexuelles, contre l'impunité. Pour vous, quelles sont les priorités qu'il faudrait définir aujourd'hui pour arriver vraiment à éradiquer ces violences sexuelles? Parce que plus de 3000 cas entre 2010 et 2013, quand même beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui doit être fait efficacement, Monsieur Franck?
Oui, merci beaucoup pour l'expression. Merci aussi à l'invité pour son point de vue. Moi, personnellement, je trouve que ce qu'elle vient de dire, c'est bien. Mais la crainte est qu'on fasse... la crainte, de mon côté, je la vois du côté où on peut se contenter de ce minimalisme comme élan d'excellence. Car parler de violence sexuelle, c'est faire allusion à une attitude de manque d'humanité vis-à-vis des autres. Puis, si nous devons encore réanalyser les motifs qui font que nos mamans, nos sœurs, nos tantes puissent être violées, c'est toujours à cause de la même réalité. Il y a des rébellions qui se créent et se recréent. On sait déjà voir les intentions de ces rebelles, mais ce qui frise, c'est le fait de voir que les mêmes qui ont violé sont parfois gratifiés à travers des grades, des promotions, soit au sein de l'armée, soit au sein de la police, même encore au sein de l'exécutif ou dans des portefeuilles des entreprises étatiques. Alors, à ce niveau-là, je trouve que on peut d'abord interpeller l'attitude de nos dirigeants en place. C'est à eux de se mettre d'abord à la place des citoyens congolais. Donc, ils doivent d'abord savoir que la protection des citoyens, la protection de leur dignité, la protection de la mobilité des citoyens appartiennent sur la liste des attributions et des responsabilités régaliennes de chaque État qui se veut ou qui se fait responsable. Puis de deux, nous devons aussi dire qu'il faut dépolitiser et l'armée et la justice, car quand on suit parfois ce qui se passe là chez nous, moi personnellement je ne vois pas qu'un ancien violeur devenu un haut responsable militaire sanctionne exemplairement les autres. Je ne vois pas un complice, un juge ayant des ramifications avec ces violeurs rendre vraiment justice avec neutralité en fonction de ces victimes. Il faut réorganiser l'administration judiciaire et aussi pénitentiaire. Il faut aussi toujours responsabiliser tout le monde, parce que parler de viol, c'est pas seulement par rapport à la victime. Le viol chez nous est utilisé comme arme de destruction. On doit détruire la race congolaise, on doit détruire la structure de la famille congolaise, on cherche même à détruire la dignité de l'homme congolais. Alors je crois que c'est un problème qui devait concerner tout le monde. On ne doit pas seulement attendre que la victime aille dénoncer. Si un citoyen congolais voit qu'on est en train de violer ou sait que quelque part, il y a quelqu'un qui a violé, qui se cache, il faut le dénoncer. Mais quand on le dénonce, il faut que la justice fasse aussi son travail. Mais avec quelle justice? Avec quelle armée? Avec quelle police? Donc moi je trouve que tant qu'il y aura encore des ramifications de complicité, soit au sein de l'exécutif, au sein de l'armée, au sein de la police, donc on ne va jamais progresser. Il faut dépolitiser tous ces services. Et il ne faut pas continuer à gratifier les anciens violeurs, devenir des responsables en vue de quel exemple? Je crois que de ce côté-là, c'est un problème qui concerne d'abord la conscience congolaise. Donc on viole les mamans, on viole nos mamans, on viole nos tantes, et nous sommes là, nous Congolais, on attend que les structures des Nations Unies, les ONG des Nations Unies, viennent les dénoncer à notre place. Mais que fait notre armée, la police et nos autorités? Que faisons nos citoyens congolais? On ne doit pas seulement attendre. Nous devons nous mettre à notre place. Sinon, si ces gens-là ne dénoncent pas, c'est comme si violer chez nous, ça serait quelque chose de normal. Alors que quelque chose dont on ne parlerait même pas si, en principe, on mettait la dignité de l'homme congolais au centre.
Merci beaucoup, Monsieur Franck. Je retiens trois choses. D'abord, vous dites, pour la lutte efficace, il faut dépolitiser, que ce soit l'armée, que ce soit la police ou la justice, mais il faut aussi réorganiser l'administration judiciaire et pénitentiaire, et il faut la dénonciation, et ça, c'est une préoccupation pour toute la société congolaise. C'est un problème de conscience. Il ne faudrait pas attendre seulement que les victimes puissent dénoncer les cas de violence sexuelle. Toute la communauté doit prendre ce dossier en main pour dénoncer et éviter aussi de gratifier, par exemple, des anciens. Vous voulez parler en termes de rébellion, de gens qui sont dans les groupes armés, qui ont été auteurs de violences et qui demain puissent se retrouver dans les postes des responsabilités. L'ensemble de ces efforts peut nous conduire à lutter efficacement contre ces violences, mais aussi contre leur impunité. Merci beaucoup, Franck. Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à Madame l'invitée.
Et au niveau de la justice, efficacement, comment la justice doit-elle agir pour arriver à lutter contre l'impunité dans le cas des violences sexuelles?
Merci Pierrot pour le sujet et aussi pour la parole. Je pense que vous avez très bien placé les doigts là où il les faut, parce qu'à mon humble avis, je me dis, on peut crier, on peut monter, on peut descendre, mais tant que la justice ne prendra pas ses responsabilités pour appliquer correctement et donc la loi sur les violences sexuelles, ça sera vraiment un vain effort. Parce que comment vous pouvez vous imaginer, Thierry, lorsque vous prenez donc la loi donne même un taux maximum et minimum. Mais lorsque nous voyons certaines complaisances en application de ces dispositions-là, quelqu'un donc présenté comme un violeur avec toutes les preuves possibles, mais la justice se condamne, voire même à moins d'une année, hein, ce qui est inacceptable, même si on appliquait de larges circonstances atténuantes. Mais cette loi-là ne permet pas pour qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'il y a une application correcte de toutes les dispositions là, et ça va donner même, donc parce que l'application correcte intimide même certaines personnes qui se trouveraient dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, comme celui qui a été condamné. Là, c'est de un. De deux, je pense que madame l'invité, c'est vrai que vous l'avez dit, bon, si, je ne sais pas si c'est, il est de la magistrature debout ou assise, mais je pense que il y a aussi un travail de fond qui doit être fait à ce niveau-là, à ce concerne le juge, par rapport à ce que je venais de dire, par rapport à l'application de la loi. Deuxièmement, c'est la sensibilisation de la population congolaise et les femmes elles-mêmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, la dénonciation est devenue comme un tabou, et parce que la loi elle-même, vous-même, vous l'avez épinglée, ne protège pas ceux-là qui dénoncent. Madame a dit, non, à huis clos, mais cette procédure à huis clos, c'est par rapport à la victime elle-même lorsqu'elle est mineure. C'est pour cela qu'on applique la procédure donc à huis clos. Mais les témoins, ça se passe au vu, et aussi de tout le monde, et surtout que lorsque les témoins est en train de déposer, donc c'est comme une sorte d'encouragement dans le chef de la population qui crie sur celui qui vient éclairer la religion du tribunal. Donc moi je pense que de ce côté-là, nos parlementaires pouvaient prendre toutes les dispositions possibles pour essayer un peu de protéger, parce que non seulement le monsieur-là est exposé, mais aussi lorsque le bourreau est acquitté, la première cible, c'est celui-là qui a témoigné pour qui la condamnation était imminente. Et puis, troisièmement, je pense que les activistes des droits de l'homme, parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a un effort fourni, Pierrot, franchement, je me demande de quel effort s'agit-il, parce que personnellement, le vendredi passé, j'étais à la prison centrale de Kananga, là où le tribunal de grande instance de Kananga siège en foraine chaque vendredi. Mais 90% des dossiers, c'était les dossiers qui concourent avec les viols. Moi, je me demande, bon, ces rapports-là, je ne sais pas, quels sont les éléments, les critères sur lesquels les rapports se basaient pour dire qu'il y a eu un effort. Donc, moi, je pense que si on mettait vraiment sur pied ces trois éléments-là, surtout la sanction, parce que l'exemplarité d'une sanction forte intimide et donne même la peur à ceux-là qui pourront
merci beaucoup,
comme
Adrien.
Celui qui est condamné.
Merci beaucoup, Adrien. Je rappelle que vous êtes avocat. C'est pourquoi vous avez utilisé des termes dans le domaine. Mais je retire les trois éléments rapidement. Vous avez proposé la responsabilité de la justice. Vous insistez beaucoup sur l'application correcte de la loi sur les violences sexuelles, la responsabilité des juges et l'application de la loi. Mais il faut aussi sensibiliser la population, et y compris si les parlementaires pouvaient faire un effort pour qu'on ait cette loi spécifique pour la protection des témoins. L'ensemble de ces trois propositions, ça peut nous aider à arriver à cette lutte efficace contre l'impunité, mais aussi contre les violences sexuelles. Merci beaucoup, Adrien. Papy, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Papy.
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Patrick Assem.
Vous avez suivi les propositions de Franck et puis Adrien, et tous ils sont revenus sur le rôle, l'application de la loi au niveau de la justice, mais la sensibilisation et la dénonciation. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait efficacement, Papy?
Merci, monsieur Pierrot. Avant de proposer ces pistes de solutions pour pallier à ces problèmes, il s'agit d'abord d'éclairer l'opinion que le terme violence sexuelle est un terme générique, englobant à son sein non seulement l'infraction des viols, comme le pense le commun des mortels, mais aussi beaucoup d'autres infractions de caractère sexuel, telles que la prostitution d'enfants, le harcèlement sexuel, la mutilation sexuelle, l'attentat lapidaire, le mariage forcé, l'excitation des mineurs à la débauche, la stérilisation forcée, j'en passe. Parce que c'est très important. En effet, lutter efficacement contre les violences sexuelles demande préalablement la révision de notre politique criminelle, en identifiant d'abord tous les obstacles de l'application effective de la loi sur les violences sexuelles dans notre pays. Et à mon avis, ces obstacles sont vraiment multiples. Il y a premièrement l'ignorance de la loi à l'éjusticiable. Alors, cela étant, la vulgarisation de cette loi-là, donc la loi du 20 juillet 2006 portant sur les violences sexuelles, et celle du 10 janvier 2009 portant la protection de l'enfant, serait un pas très significatif à la lutte contre les violences sexuelles et diminuerait ainsi beaucoup d'abus. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, la loi sur les violences sexuelles interdit l'application des amendes transactionnelles. Mais à notre grand étonnement, sur le terrain, nous voyons même les OPJ procèdent à ces paiements des amendes transactionnelles. Vraiment, c'est désolant. Il faut que la population elle-même soit informée de cette loi-là.
Mm-hmm.
Un autre obstacle, c'est le temps qui s'écoule entre celui de la commission de l'infraction et celui auquel les autorités judiciaires en sont saisies. Alors qu'en criminologie, la possibilité de la perte de l'information et la vérité et des moyens de preuve s'accroît au fur et à mesure qu'on avance dans la procédure.
Mm-hmm.
En plus, il ne suffit pas de prononcer les condamnations, M. Pierrot. Faut-il encore les exécuter pour que les auteurs de violences sexuelles purgent effectivement leur peine? Cela servirait d'exemple aux autres, car en droit pénal, outre la prévention individuelle ou spéciale que joue la peine, elle joue également la fonction de prévention générale ou d'intimidation collective. C'est-à-dire, la peine infligée aux délinquants constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui tenteraient à l'imiter. Abordant toujours dans le même ordre d'idées...
Et pour terminer, papy, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur les standards, hein,
il y a aussi d'autres facteurs qui constituent les obstacles à la poursuite des auteurs de violences sexuelles. Je citerai par exemple la honte par la victime, la pitié, la crainte du criminel, comme vous venez de le dire, le manque et la perte d'argent, le caractère honoré et la lenteur de la justice congolaise. La réduction des frais de justice et l'encouragement de la dénonciation diminuerait vraiment beaucoup d'habits.
Voilà, merci. Par rapport à ça, papy, parce que là, vous avez rejoint tout à l'heure Adrien qui revenait sur l'application correcte de la loi. Je retiens, vous insistez beaucoup sur la révision de la politique criminelle, hein, et puis vous avez insisté sur le fait qu'il faut vulgariser la loi sur les violences sexuelles et la loi aussi sur la protection de l'enfance. Ces lois doivent être vulgarisé auprès des justiciables, parce qu'il arrive que des OPJ puissent procéder aujourd'hui avec des amendes transactionnelles pour de gens qui sont auteurs des cas des violences sexuelles. L'ensemble de ces sensibilisations, mais aussi l'exécution correcte de condamnations, des sanctions, tout cela doit concourir à décourager ceux-là qui voudraient se mettre sur le chemin de violences sexuelles. Merci beaucoup. Nous allons écouter Mystère qui est à Cucuit. On va revenir à Madame Marie-Josée Mujinga. Il pourra placer un mot par rapport à ce qui a été proposé par nos auditeurs. Mystère, vous êtes à Kikuit dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, Radio Kafir. Bonjour, les anciens de Marie-Martin.
Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait efficacement dans cette lutte contre l'impunité en cas de violences sexuelles?
Bon, ce qui doit être fait, d'abord, la loi souvent est faite pour les villes. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans les milieux et ruraux, surtout chez moi dans le Songolunda, vraiment, une jeune fille de 13 ans qui va au mariage, et vraiment, c'est minimisable. Et les familles se mettent à l'écart et ils mettent encore du bon, c'est la coutume, vous voyez, c'est ce qu'il doit faire. Nous vivons bien, alors la jeune fille va aller comme ça, on demande des chèvres, ainsi de suite. Après, la jeune fille devient mère avant 18 ans.
Mmh.
Je demanderais au gouvernement que ces gens-là, ils partent même dans le milieu pire qu'il est pour récolter les informations. Les informations qu'ils récoltent seulement, ce sont les informations de la ville, et non de la RDC tout entière. Parce qu'on dit qu'il y a des enfants de situatifs. Non, chez moi, les violences sexuelles toujours sont comme ça, chaque jour. Et les grossesses, c'est incontrôlé, les jeunes filles, moins de 18 ans. Mais toujours, c'est amiable, on arrache avec la famille. À part ça, et même l'ONU aussi est à la base de ces violences sexuelles. Il ne voudra jamais dire que les violences sexuelles cessent en RDC. Quand les violences cessent, lui doit publier les rapports en fonction de quoi? Comme il y a un ami qui me disait, moi c'est Fabrice de Cercueil. Chaque jour j'ai pris qu'il y ait des morts pour que les cercueils
Mystère, oui, mais c'est vrai. Mais ce sont quand même de déclarations très très graves là. C'est ce que vous dites. Vous pensez vraiment que ceux qui s'engagent à lutter contre les violences sexuelles ne voudraient pas en réalité que les violences cessent parce qu'ils n'ont pas des rapports à fournir? C'est pourquoi il y a des mesures qu'il faut prendre dans le rapport des Nations Unies. On est revenu sur plusieurs cas. Si vous nous suivez régulièrement dans nos émissions, nous sommes revenus dans des cas où on avait beaucoup de cas qui étaient enregistrés par jour. Et alors, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les autorités congolaises, tout le monde s'engage à dire qu'on doit lutter pour mettre fin complètement aux violences, mais penser que les gens veulent que les violences soient là pour qu'ils aient des rapports à fournir, je crois que là, à un certain moment, c'est grave. Mais dis-moi, il y a des choses que vous avez dit qui sont intéressantes par rapport au village. Vous estimez qu'on parle plus de violences en ville, c'est là où les gens connaissent la loi. Il y a dans nos villages aujourd'hui où il y a encore des enfants de 13 ans, de 14 ans qui vont au mariage, il y a des grossesses des mineurs, il y a des arrangements à l'amiable. Il faudrait aussi, au-delà du fait qu'on puisse sensibiliser en ville, aller jusqu'au village où il y a encore des coutumes qui permettent à ce qu'il y ait des mariages des mineurs, et cela peut permettre à ce qu'on puisse faire une lutte efficace. Merci beaucoup, Mister. Voilà ce qui est plus positif dans votre intervention. Joseph, vous êtes à Bukavu, vous allez garder la ligne, on va revenir à vous. Je rappelle encore que nous parlons du rapport des Nations Unies sur les violences sexuelles en RDC, 3600 cas répertoriés entre janvier 2010 et décembre 2013. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour lutter efficacement contre l'impunité en cas de violences sexuelles? Nous avons en ligne Madame Marie-Josée Mujinga, présidente de l'association des femmes magistrates. 081-890-6315, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Joseph, vous êtes à Bukavu, gardez la ligne.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Madame Marie-Josée Mujinga, vous avez suivi nos quatre premiers auditeurs. Hein. Ils ont un point commun, c'est le renforcement de la justice, l'application de la loi, la sensibilisation aussi de la population, mais aussi hein, la vulgarisation de la loi, que ce soit celle sur les violences sexuelles ou portant protection de l'enfant. Quel est votre mot par rapport à ce qui a été proposé par nos auditeurs?
Oui, merci pour... la parole. J'appuie le point de vue de l'auditeur qui a fait la différence entre les violences sexuelles, qui a parlé des violences sexuelles. Parce que, vous savez, quand nous parlons des violences sexuelles, la tendance est de penser au viol.
Mmh.
Alors nous devons savoir, quand nous parlons des violences sexuelles, parlons-nous de viol ou des violences sexuelles? Parce que les violences sexuelles, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, ça concerne beaucoup d'infractions à la fois. Alors, entendre la manière dont les gens interviennent, je pense qu'ils parlent plus de viol.
Mm-hmm.
Alors, par rapport à celui qui a dit que, bon, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas poursuivis, moi je dirais que nul n'est au-dessus de la loi. Le mal reste le mal, quelle que soit la position qu'on occupe dans la société. On n'a pas le droit de causer du mal, de causer du tort. Par conséquent, on ne peut pas se protéger par la loi en disant qu'on est une autorité quelconque. Donc la loi est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde.
Mmh.
Et par rapport à ce que on veut dire, que, écoutez, c'est la justice qui doit être renforcée, la justice qui doit faire son travail, nous devons faire la part des choses. D'abord, nous avons d'un côté la victime, celle qui a subi le mal, qui a une part de responsabilité. La part de responsabilité, la première responsabilité, c'est quoi? Elle doit sortir de l'ignorance, elle doit connaître la loi.
Mmh.
D'abord, elle-même, celle qui est victime. Ce qui n'est pas le cas pour la population dans notre pays. C'est à peine si nous commençons à voir les gens s'intéresser à connaître les lois, et surtout la loi portant violence sexuelle. Donc la victime doit connaître elle-même la loi. Pourquoi doit-elle connaître la loi? Non seulement la victime, il ne faut pas que la victime attende d'être victime, mais toute la population est appelée à être sensibilisée sur la loi pour connaître la loi, et afin de pouvoir dénoncer et éviter. Vous savez, quand on connaît la loi, on va non seulement éviter de poser des actes qui sont répréhensibles, mais on va aussi, quand on est victime, savoir dénoncer, on saura que ce qu'on a fait sur moi, c'est un mal réprimé par la loi et qui est sanctionnable, mm-hmm. et que la personne peut dénoncer le mal. la plupart des cas, il n'y a pas de dénonciation. Et quand il y a même des dénonciations, nous disons, par rapport à la justice, vous savez, c'est une œuvre humaine. On dénonce les mauvais, on dénonce la mauvaise application de la loi. Ça nécessite aussi renforcement des capacités des acteurs judiciaires. Je suis d'accord avec vous que le magistrat, c'est un être humain, il a besoin qu'on renforce ses capacités. Et non seulement ça, mais le magistrat est tenu à la loi. Il y a des cas qui sont interprétés par la population comme étant un abus de la part du magistrat, alors que le magistrat, lui, se retrouve au niveau du balance. Le magistrat, quand il y a un cas qui est déféré devant lui, il n'est pas seulement du côté de la victime, mais il est aussi du côté de l'auteur. C'est-à-dire la personne qui vient porter plainte, qui vient dénoncer, doit avoir les preuves. Quand il n'y a pas assez de preuves, le magistrat ne peut pas condamner seulement, sinon il va tomber aussi dans l'arbitraire. Parce que la loi est là aussi pour protéger celui qui est innocent. Il y a un principe de droit qui dit que tout le monde est présumé et bénéficier plutôt de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on apporte la preuve de sa culpabilité. Donc le magistrat, lui, il instruit la cause qui est soumise devant lui, et s'il trouve qu'il n'y a pas assez de preuves, il ne peut pas être obligé de condamner à tout prix. Il va peut-être relaxer, il va acquitter. À ce moment-là, la population qui ne connaît pas très bien la manière dont les choses se sont passées va interpréter comme étant une injustice de la part de la population. Nous disons que par rapport à ces infractions de violence sexuelle, vous savez, l'auditeur qui a dit qu'il y a plusieurs infractions de violence sexuelle, y compris le viol, a bien dit. Parce que vous savez, il y a plusieurs cas qui sont énumérés par la loi comme faisant partie des violences sexuelles. Et tous ces cas-là ne sont pas connus de la population. La population ne parle que du viol. Pour cela, je crois qu'il faut aussi une sensibilisation de la population. Donc, moi, j'estime personnellement que chacun doit faire, doit prendre ses responsabilités. La population doit connaître les lois, les dénoncer. Et la justice doit faire aussi son travail. Mais le rapport... cas où la justice n'a pas bien fait son travail, il faut, avant de pouvoir accuser la justice, avoir la preuve des faits qu'on dit. Est-ce que tous ces arguments qu'on donne comme étant une faiblesse par rapport à la justice, sont-ils fondés ou pas? Mais je ne peux pas dire que la justice fonctionne très bien. C'est une œuvre humaine. Mais on ne doit pas tout rejeter sur la tête des magistrats.
Oui, madame, vous avez suivi notre ami Papi de Kinshasa, c'est lui exactement qui a parlé des différentes infractions en termes de violences sexuelles, mais il a beaucoup insisté aussi sur le temps de la commission de l'infraction et le temps de la procédure, la lourdeur. Il estime que quand on saisit la justice autant des mois après la commission, la victime aussi, c'est ce qui arrive dans beaucoup des cas, elle commence à avoir aussi difficile d'identifier les bourreaux. Des fois, elle commence à se poser des questions sur l'heure, parce qu'il y a toute cette procédure. C'est pourquoi il a beaucoup insisté sur la révision. Si on peut écouter, si les procédures peuvent être écoutées, ça peut permettre à ce que la victime puisse se rafraîchir facilement et de pouvoir présenter à la justice tous les contours, si possible, de l'infraction au moment où elle a été commise.
Oui, c'est son point de vue, je le respecte, mais ce que moi je peux dire, c'est que la loi a déterminé le nombre de temps que doit prendre une procédure en matière de viol. En matière de viol, on parle de 3 mois. Et vous savez, quand vous dites qu'on doit identifier l'auteur de l'infraction, ce n'est pas en une journée qu'on doit identifier l'auteur de l'infraction. Vous savez, la plupart des cas, les personnes qui commettent ce genre de forfait prennent fuite. Alors, dès qu'il y a eu dénonciation, quand il y a une dénonciation, il faut que la justice prenne le temps de pouvoir rechercher l'auteur de l'infraction. On risque de ne pas le condamner. On doit le rechercher pour qu'on puisse bien instruire une affaire. Il faut prendre le temps de rechercher l'auteur de l'infraction. Je ne pense pas que le temps par rapport à l'auteur de l'infraction puisse poser problème. Mais voilà. Il y a des cas où l'auteur est sur place, on l'a même interpellé, mais même alors, il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient menées. C'est bien beau de dénoncer, mais il faut que la personne qu'on a amenée devant la justice, on puisse avoir des preuves contre elle. Mais tout ça, ça prend du temps.
Voilà.
Il faut que le juge puisse faire intervenir, vous avez parlé des témoins. Il faut citer les témoins. Il y a des délais prévus par la loi pour pouvoir citer un prévenu. Et ce délai ne doit pas être violé non plus. Donc, le juge, tout en voulant rechercher la vérité pour connaître quel est l'auteur, il ne doit pas non plus violer la loi. Il y a une loi qui limite le délai au-delà duquel les juges ne peuvent pas aller.
Il y a Joseph qui est à Bukavu et Kaouni à Kalemi, mais rapidement par rapport à ce qui a été dit par notre ami Mystère Dekukit, il dit, bon, la plupart des cas, tout ce débat, les gens s'intéressent plus dans les milieux urbains, on parle des dénonciations, que ce soit dans l'ensemble des infractions de violences sexuelles, mais lui, il est revenu sur les mariages des mineurs dans les milieux ruraux où on ne parle pas de la loi, les gens, dans leur coutume, ils trouvent que tout cela est devenu normal. Ça, ça a été évoqué tout à l'heure par Mystère. Placez un mot et puis on va écouter d'autres auditeurs.
Oui, mais tout à l'heure, je vous ai dit que les violences sexuelles ne signifiaient pas seulement le viol. Hein. Il y a aussi des cas de mariage forcé. Il y a des cas de jeunes filles mineures qui sont prises en mariage et qui, selon la loi, parce qu'ils ont eu des rapports sexuels avec un adulte, quand bien même c'était un mariage, qui a été, aux yeux de ceux qui l'ont contracté, qui a été apparemment normal, c'est une infraction. Vous savez, là, nous avons un problème. Nous avons un problème de sensibilisation, de vulgarisation de cette loi.
Oui.
Laissez-moi vous dire que cette loi-là n'a pas été assez vulgarisée. La population n'a pas été sensibilisée sur cette loi. Et ce n'est pas à la justice de pouvoir sensibiliser la population. Ce n'est pas le rôle de la justice de sensibiliser la population. Je crois que le pouvoir public sont là pour pouvoir mettre les mécanismes en place afin que la population puisse être sensibilisée par rapport à toutes les lois qui sortent.
Merci.
Je crois que c'est ça le grand problème.
Voilà, on va revenir à vous. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081-890-5315.
Parole aux auditeurs.
Joseph, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Perrault, de m'avoir accordé la parole. Je viens d'écouter l'invité avec toute attention. Alors, par rapport à la culture congolaise et tout ce que nous subissons et au Congo, précisément à l'Est, et je pense que je peux contredire un peu tout ce que l'invité vient de dire. Alors, la culture congolaise, il n'y a pas plusieurs décennies où les mots violent prend l'ampleur et au niveau de l'étendue, puisque le peuple congolais, c'est un peuple solidaire et accueillant. Et si les mots commencent, c'est un mot nouveau pour les Congolais. Mais aussi avec tout ce qu'on a tout subi vers les années 90, alors c'est à ce moment où les mots violent a pris l'ampleur. Alors, tout ce que nous subissons aujourd'hui, moi, je pense que les Nations Unies ne peuvent rien ajouter ni augmenter pour lutter contre la violence. Pourquoi? Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, il y a des viols dans des différents villages ici à l'Est. Le gouvernement ne fait absolument rien. Il n'y a pas même un mot pour lancer, pour lutter contre, disons, ces fléaux de la violence sexuelle. Alors, si le gouvernement doit attendre que les Nations Unies puissent vraiment et s'agiter et agir, je pense qu'il n'y aura pas les moyens propices. Mais pour que nous puissions lutter contre la violence, je pense que d'abord il faut qu'il y ait d'abord la paix dans toute l'étendue de la République. Alors, on parle du tout, mais il n'y a pas de changement. Du jour au jour, on critique à la radio tout, mais il n'y a pas de changement puisque les Congolais eux-mêmes ne se prennent pas en charge pour lutter contre les violences. Combien de dirigeants qui sont au pouvoir, qui ont fait des massacres et des viols, mais ils ne sont pas capturés. Alors, quand vous dites que la justice doit se prendre en charge, bien sûr, la justice est là, mais les juges qui doivent vraiment s'en occuper, ils ne sont pas payés, ils sont là. Alors, quand les semeurs des sexeaux arrivent, ils donnent quelque chose pour les corrompre, alors ils n'allons plus faire leur travail comme il faut. Et que donc, ce qu'il nous faut au Congo, il faut que d'abord les gouvernements puissent prendre la responsabilité, motiver les juges, que la justice soit vraiment parfaite. Et je pense que dans ce cas-là, nous aurons les meilleures pistes de solutions. Mais tout ce que nous subissons à l'Est, M. Perrault, si vous arrivez à l'hôpital du Panzi, vous voyez les pauvres mamans qui souffrent à cause de la violence. Et les autorités passent, on vous dit ça du jour au jour à la radio. Vous voyez que c'est ridicule. Nous ne pouvons pas rien attendre des Nations Unies, mais il faut que les dirigeants congolais prennent la justice en charge. Et celui qui commet une erreur ou une faute, qu'il soit capturé, sans pour autant attendre de discuter, de parler du trou du Dieu. Partout ailleurs, on parle. Les ONG arrivent, qu'est-ce qu'elles font? Absolument rien. Elles cherchent leurs intérêts au moment où nous souffrons et les pauvres mamans demeurent à chaos.
Merci beaucoup. Et Joseph, vous avez beaucoup insisté sur la responsabilité de Congolais et même dans la lutte contre les violences sexuelles. Et là, vous avez beaucoup insisté sur les viols utilisés à l'Est dans le cas des affrontements. Et je retiens, vous avez dit, le premier préalable pour vous, c'est d'abord le rétablissement de la paix qui pourra conduire d'une manière tacite aussi à l'élimination de violences sexuelles dans les zones de l'Est. Il y a l'amélioration des conditions de travail des magistrats et la lutte contre la corruption, mais la prise en charge des Congolais eux-mêmes qui doivent se saisir pour définir les mécanismes et mettre fin à ces violences. Merci beaucoup Joseph Kaouni, vous êtes à Kalemi dans la province du Katanga, bonjour.
Oui, bonjour, je prends cette belle opportunité d'une forte salutation au chevalier de la plume et à tous les auditeurs qui m'écoutent à la radio de paix. J'ai tenté de discerner différentes hypothèses qui continuent toujours à turbuler notre république. Bon, vous voyez, monsieur Pierrot, c'est qui maîtrise bien la Bible, cantique des cantiques dit, il est roi Salomon qui disait, l'homme domine et l'homme de son détruiment. Vous voyez, dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes qui continuent toujours à turbuler le pays, et c'est dans l'hypothèse où il y a primaire délinquance totale, et secondo, il y a cruauté sauvage ou barbarie, et tertio, il y a manque d'efficacité dans les programmes scolaires aussi, et arrogance verbalisée aux gens, et quarto, et enfin, il y a application, non-application des châtiments au niveau des cannibales. Bon, moi, je regrette fort quand j'ai recevé un appel provenant de Philadelphie aux États-Unis, mon neveu m'appelait, il disait, bon, quand il collaborait avec les amis américains, un ami disait, vraiment, je souhaiterais mieux vivre dans la République démocratique du Congo, parce que, bon, il disait, pourquoi? L'homme a répondu, bon, en République démocratique du Congo, quel que soit, il égare à la présence des lions, on punit rarement. Vraiment, ça m'a beaucoup choqué parce que d'habitude, je me rappelle bien quand Maître Wemboulois, Henri Wemboulois a été invité suite à l'impunité, il a beaucoup parlé, il donnait quand même les retombées qui étaient négatives juste pour abannir cette criminologie qui continue toujours à tarabister les pays, mais c'était toujours en vain. C'est pourquoi bon, j'ai tenterai ou je finirai à mon humble avis, je dirais, il y avait un philosophe romain qui disait « Naturam expellit forsata menus que recurrit » chasser la nature avec une fourche, elle reviendra toujours en courant. C'est-à-dire, il faut les gens directement courant populo pour que d'autres puissent en pâtisser. Je vous remercie.
Merci beaucoup Kaouni. J'ai retenu dans tout ce que vous avez dit. Vous avez fait référence à notre émission avec Maître Henri Omboloa dans cette émission autour de l'impunité. Vous avez beaucoup insisté sur la lutte contre l'impunité. Même si l'homme domine sur l'homme, l'homme peut développer des sentiments de criminalité, mais dès qu'il y a l'application de la loi, tout cela c'est pour mettre l'ordre dans la société. Autant de mots que vous avez dénoncés, mais le maître mot c'est la lutte contre l'impunité pour mettre fin à tout cela. Merci beaucoup Kaouni. Jules, vous êtes à Kongolo dans la province du Katanga. Bonjour Jules.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio communautaire de Kongolo, grâce à laquelle nous sommes en train de vous suivre pour l'instant.
Nous aussi, on est contents, Jules.
Oui, merci pour la parole, M. Pierrot. Je pense que je ne vais pas me répéter parce que tout ce que j'avais prévu à dire, on en a déjà parlé, mais d'une manière brève, je dis ceci, M. Pierrot. Je pense qu'il faut à tout prix combattre bec et griffes ces malfaiteurs qui appliquent les actes de viol à l'endroit de la femme. Celle-ci est l'unique et la seule porte à partir de laquelle on passe pour s'introduire dans ce monde, M. Pierrot. Elle mérite à tout prix le respect, M. Pierrot.
Mm-hmm.
Vous savez, trois causes sont à la base des actes de viol à l'endroit de la femme qui sont en train de s'observer sur les quatre coins de ce grand pays. La première cause, d'abord, il y a l'impunité, M. Pierrot. Il y a l'impunité. Les responsables des viols ont toujours été identifiés. Et c'était d'entre eux mis aux arrêts et se trouvent le lendemain dans la rue. Sans être inquiétés, M. Pierrot, alors que nous avons la justice, qui voudrait qu'on puisse aussi l'appeler justice, M. Pierrot. La deuxième cause, il y a l'accoutrement. Il y a l'accoutrement. Ici à Congolo, parce qu'il faut, il fait très chaud, les femmes prennent comme alibi qu'on doit à tout prix porter n'importe quel habit. Je pense que cela aussi encourage les viols. Il fallait que le gouvernement puisse aussi tenir compte de cela, M. Pierrot. Des trois, il fallait aussi aider la femme à braver la peur. Vraiment, je souligne avec un stylo rouge. Il faut aider la femme à braver la peur. La femme pense qu'après les viols, tout doit se passer comme ça. Je pense que les trois ici suffisent pour qu'on puisse décourager les viols, M. Pierrot.
Merci beaucoup, mais je pourrais revenir sur le problème de l'accoutrement. Plusieurs personnes ont toujours évoqué ça dans Parole aux auditeurs pour dire que non, voilà, il y a l'accoutrement qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, mais quand on regarde l'ampleur du viol, si on voudrait peut-être revenir sur les viols dans les zones de l'insécurité, c'est pas vraiment lié à l'accoutrement en tant que tel, et quand bien même la fille pourrait être habillée d'une manière de sa liberté qu'elle pourrait choisir, cela ne justifie pas aussi pour un homme de dire voilà, parce que toi tu es habillé comme ça, c'est une occasion pour moi de pouvoir me lancer sur toi pour t'être violé, mais dis-moi, tu insistes sur l'impunité et la dénonciation, il faut lutter contre l'impunité et les femmes doivent dénoncer, doivent braver la peur. Merci beaucoup Jules. Guillaume, vous êtes à Mahagui en province orientale, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, comment vous allez?
Oui, ça va bien à Kinshasa et vous, on vous écoute, qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace Guillaume?
Ok, d'une manière très efficace, Pierrot, je crois que c'est un bon sujet. Bonjour d'abord à Maggie. Je crois que tout le monde soit préoccupé. La situation est très vraie préoccupante. Même si les morgas sont devenus décrétés de la deuxième messe avec les baptêmes là de la ministrie, je crois que nous avons une question congolaise. Ni rwandaise, ni ougandaise, ni américaine, ni togolaise. Donc, je n'ai pas le courage de saluer ces rapports écrits, mais plutôt, c'est une interpellation au gouvernement. Donc, la violence n'est pas une recette pour la RDC. Ce n'est même pas un honneur pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous posons la question. Pourquoi à l'Est, les femmes vivent de toutes sortes de violences? Donc, la solution, il faut lutter, il faut la libération de la justice. Nous continuons encore à poser des questions. Quels sont ceux qui sont chargés de la recherche des infractions au pays? Donc, il faut que l'impunité cesse, et ce n'est pas maintenant qu'on doit gagner la justice. Pierrot, nous avons un gouvernement, c'est une question de l'état des droits, c'est une responsabilité de l'état. Il faut que les rapports entre l'homme et la femme soient réglés. Il faut une très grande réflexion approfondie. Il y a un effort à faire, c'est la mentalité des Congolais. Il faut éviter de jouer avec les gens, Pierrot. Si je continue un peu, je sais que j'ai 40 secondes ou bien 10 secondes, 15 secondes. C'est très vrai. Les victimes sont comme des preuves aujourd'hui, depuis la Première République jusqu'à la Troisième République aujourd'hui. Mais ça pose déjà des problèmes à Ituri, Pierrot. Pour aller un peu là très vite, je crois que dernièrement ici, chacun avait suivi avec ses deux oreilles que Germain Katanga a été quitté sur les violences sexuelles et les recrutements des enfants. Donc la population congolaise, et particulièrement à Ituri, commence à avoir des procès qui ne les rassurent pas. Donc les journalistes, vous les journalistes et tous ceux qui sont chargés de presse, nous avons commencé à poser ces questions. Qu'est-ce que les victimes de l'Ituri sont devenues? Et que deviendront les mêmes victimes là demain? Je crois que les services américains
oui, merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Il y a aussi Jean qui est à Kinshasa. On va terminer cette émission parce que notre invité va pouvoir placer un mot rapidement. On va revenir à Jean avant de conclure. C'est ce que l'invité expliquait tout à l'heure. Quand il y a des procédures de preuve, la manière dont le juge finit par conclure un procès, il arrive des fois que ceux qui regardent, qui suivent au loin, qui ne comprennent pas le mécanisme de l'acquittement ni de la condamnation, trouvent effectivement, comme vous l'avez dit, que le magistrat n'a pas fait correctement son travail. Voilà, il y a toutes ces interprétations au niveau des décisions de la justice, mais je retiens, vous avez dit, le rapport, c'est une interpellation pour le gouvernement, pour le pouvoir public, pour voir comment prendre leurs responsabilités et permettre à ceux à résoudre le problème. Mais on va écouter Jean qui est à Kinshasa et lire quelques messages pour permettre à notre invité de conclure cette émission. Jean, vous êtes avec nous, bonjour.
Ok, bonjour Pierrot, bonjour, je parle aux auditeurs. Ok, alors,
j'avais seulement quelques
propositions à soumettre. C'est qu'il y a d'abord le problème de partir du ministère du genre, de famille et enfants. Il y a aussi la responsabilité de s'occuper de la femme, pas seulement pendant le mois de la femme, donc le mois de mars, mais aussi c'est la vulgarisation plutôt sur ces problèmes de violence sexuelle, parce qu'on en parle seulement d'une façon volatile et le ministère de tutelle ne s'en occupe pas. C'est déjà aussi un problème. Aussi, enlever la coutume selon laquelle il y a un tabou de parler du sexe au niveau des familles. Parce que vous avez remarqué que nous, on a violé un enfant de 6 ans, 12 ans, 13, 14 ans, mais pendant plusieurs fois, mais il n'a pas été, la personne qui l'a violé n'a pas été dénoncée. Alors, on doit aussi enlever cette peur-là au niveau de la famille pour qu'on parle des problèmes de la sexualité normalement, pour que les enfants se prennent aussi, prennent les mesures pour éviter certains dérapages de la part des violeurs. Au niveau de la justice, éviter la justice de deux poids, deux mesures, nous le voyons. Ensuite, la corruption. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a violé, il y a quelqu'un qui l'a dit, une année après ou deux, trois mois après, vous voyez le monsieur qui circule tranquillement dans la cité. Pourtant, il a violé. Et que nous savons que c'est le violeur est condamné à plus ou moins de 15 ans, 15 sinon 20 ans de prison. Mais après quelques mois, vous le voyez, c'est que les jeunes me proférer des menaces à la famille. Vous voyez que ce n'est pas normal. Aussi, pour terminer, faire le suivi, pas suffisamment de prononcer la condamnation. On dit que nous, voilà, on vous condamne à hauteur d'années de prison. Mais il n'y a pas de suivi au niveau de la famille pour que voici la personne qui a violé est réellement condamnée et puis elle tire sur sa peine. Il y a aussi ce relâchement de notre part de ne pas suivre les dossiers correctement pour vérifier si la personne qui était condamnée est en train de purger sa peine. Donc voilà autant de propositions que si on pouvait mettre en application, ça pourrait peut-être résoudre les problèmes, surtout besoin de la sensibilisation au niveau des femmes elles-mêmes et des enfants au niveau de la famille, des écoles, dans des églises, ainsi de suite.
Merci beaucoup Jean. Comme l'a dit en début de l'émission notre ami Franck qui nous a appelé de Vienne, il a dit cette question ne doit pas être considérée comme une question uniquement pour la justice, c'est une question de conscience nationale. Il faudrait parler des violences sexuelles dans la globalité. La sensibilisation, c'est la préoccupation de tout le monde. C'est pour cela que vous insistez, que ce soit au niveau du ministère du genre, que ce soit en famille, dans les écoles, il faut ne pas en parler sporadiquement, mais en faire une question, une préoccupation nationale pour arriver à mettre fin à ces cas de violences sexuelles. Abby, vous avez aussi évoqué le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. Il faudrait appliquer les sanctions comme il faut. Merci beaucoup aux auditeurs. On a aussi reçu quelques messages de nos auditeurs qui nous ont écrit sur la page Facebook des paroles aux auditeurs avant que l'invité puisse prendre la parole pour conclure cette émission. Il y a Lucien Chizungu qui dit ceci, c'est pitoyable. Quand on évoque encore pendant cette période des cas des violences sexuelles et surtout des viols, pour lutter contre que ce soit l'impunité, ce qu'il faut d'abord, c'est de transférer devant les juridictions tous ceux qui sont élevés en dignité et qui sont impliqués, que ce soit au niveau des forces de sécurité ou au niveau des groupes armés. Il faut les arrêter et faire respecter la loi, et comme ça les autres personnes pourront être intimidées et ils pourront avoir peur. Junior Kasongo Kasereka, pour lui, la meilleure meilleure solution, c'est la mise en place d'une cour mixte, c'est ce qu'il lui propose. Mais il faut aussi tenir compte de l'environnement hein, dans où évoluent des victimes, mais aussi des criminels. C'est très important quand il faut les condamner. Il y a aussi Innocent Armand Candoli qui dit ceci. On a beaucoup recensé des cas de violences sexuelles dans les zones de l'Est. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur les rétablissements de la paix, parce que c'est plus des hommes en armes qui sont à la base de ces violences sexuelles. La paix est très nécessaire pour lutter d'une manière efficace. Merci à tous. On revient à vous, Madame Marie-Josée Mujinga. Vous avez suivi les uns et les autres. On est revenu sur des mots-clés, la sensibilisation, la vulgarisation de la loi, la lutte contre l'impunité, le renforcement de la justice. Vous avez suivi les auditeurs. On peut quand même garder de l'espoir dans cette lutte qu'on peut arriver à mettre fin d'une manière efficace à ces violences un jour.
Oui, merci à tous ces auditeurs qui ont contribué de manière pertinente, les uns comme les autres. Ce que moi je peux dire en résumé, c'est que vous savez, les violences sexuelles d'une manière générale et les viols en particulier constituent un mal dans la société, qu'il faut lutter, qu'il faut éliminer, non en amont et en aval, mais plutôt en amont. C'est-à-dire, nous devons tous, ce n'est pas seulement un problème de la justice. Ce problème concerne toute la population. Nous devons d'abord rechercher qu'est-ce qui est à la base de ces viols-là. Pour cela, la population doit être sensibilisée. La mentalité de la population, on doit éduquer la population au respect de la femme, au respect du sexe, pour qu'en amont, on puisse commencer à voir certains résultats. Parce que la justice sur laquelle on jette les pierres, malheureusement, ce n'est pas la justice qui provoque les violences. On vous dit qu'à l'Est, il y a trop de viols, il y a trop de violences. Cela n'est pas lié au fait que c'est la justice qui ne fait pas son travail. Il y a une mentalité qui s'est développée là-bas contre laquelle il faut combattre. Et la manière de combattre cette mentalité, la justice est aussi un acteur, mais pas le seul acteur qui doit combattre cette mentalité. On doit d'abord combattre cette mentalité, et puis on doit sensibiliser la population sur l'existence de la loi, cette loi qui n'est pas connue de tous, et on doit aussi renforcer la capacité des opérateurs judiciaires. Parce que quand on parle de la justice, on commence par l'OPJ jusqu'au magistrat.
Merci
on
beaucoup.
Doit renforcer les capacités
voilà,
de la
merci.
Justice. Et puis, il faut aussi que la population ait l'habitude de ne pas mettre tout dans un même bloc. Ce n'est pas parce que hier on a
merci, arrêté... Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. On ne saura pas aller plus loin. Nous vous disons merci. Je rappelle à nos auditeurs que c'est madame Marie-Josée Mujinga, présidente de l'Association des femmes magistrates du Congo, qui était notre invitée dans cette émission consacrée à la lutte contre les violences sexuelles. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire parole aux auditeurs, et à Jean-Claude Nsiala, à la mise en onde, Berry Franklin Luchaka et Rose Nyanfoura, à la réalisation, Nicole Ngaka a assuré la supervision et Pierrot et la Meji vous a présenté cette émission que vous allez retrouver en 9M à 20h03 heure de Kinshasa, mais aussi sur Radio Capi.net. Au revoir.